Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. C'est une coïncidence que la diplomatie française n'avait pas anticipé. Il y a une quinzaine de jours, à Paris, Vladimir Poutine participait à une réunion quadripartite au sujet de l'Ukraine, sans résultat concret par ailleurs. Le même jour, l'Agence mondiale antidopage annonçait que la Russie allait être exclue pendant 4 ans des compétitions sportives internationales. Le président russe dénonce aussitôt la décision, son premier ministre Medvedev parle d'hystérie anti-russe, qu'il y ait appel ou non, l'affront demeure. Le retour de la Russie au firmament du sport mondial, participant comme à l'époque soviétique à l'affirmation de sa grandeur, eh bien ce retour est à nouveau compromis. Déjà en 2014, à l'occasion des Jeux d'hiver à Sotchi, on avait découvert un gigantesque programme de dopage et de trucage des tests organisé par les différentes fédérations coiffées par des oligarques proches du Kremlin. Depuis, des bases de données, des dossiers concernant des athlètes russes toujours en activité ont tout simplement disparu ou subi des manipulations grossières. Certes, la Russie n'a pas le monopole du dopage, loin de là, mais l'échelle de ses pratiques laisse pantois. Quelle crédibilité faut-il accorder aux sanctions prévues par cette agence antidopage qui dépend en partie du Comité international olympique? Quels sont les compromis prévus pour permettre à de nombreux sportifs russes de concourir malgré tout? Jusqu'où les rapports de force politiques et financiers pèsent-ils encore et toujours sur le grand spectacle du sport, scène privilégiée d'une mondialisation encouragée de toutes parts? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Jean-François Bourg, bonjour. Bonjour, vous êtes économiste, chercheur au Centre de droit et d'économie du sport à l'Université de Limoges. Merci. Bonjour. À Sylvain Dufraisse, qui est lui aussi avec nous par téléphone, maître de conférence en histoire du sport à l'Université de Nantes. Carole Gomez, vous êtes politologue, chercheuse à l'IRIS, spécialisée sur l'impact du sport dans les relations internationales. Et bienvenue à Lucas Aubin, chercheur en géopolitique à l'Université Paris-Nanterre, qui est en train de terminer sa thèse, bravo, sur la gouvernance par le sport en Russie. Jean-François Bourg, je commence avec vous. Jusqu'à quel point est-ce que la Russie est à peu près ce que l'on peut faire de pire, ou en tout cas de plus caricatural, en ce qui concerne ces affaires de dopage, parce qu'on a l'impression qu'il y en a continuellement?
C'est vrai que on a l'habitude de dire que la Russie est au dopage, que la Colombie est à la drogue. Donc c'est pour montrer à quel point il y a une culture ancienne du dopage en Russie. Il y a une longue tradition de fabrication et de trafic de produits dopants, parce qu'il y a des atouts, il y a des chimistes en grand nombre qui sont souvent au chômage, il y a de la matière première, il y a un réseau criminel qui, avec les fondements du RSS, s'est développé, des anciens membres du KGB sont entrés dans ces réseaux mafieux. Donc il y a vraiment un savoir-faire au départ qui facilite les choses. Et puis il y a également Poutine, évidemment, qui a mis au centre de son projet politique, à destination du pays comme à destination des autres pays, le sport est devenu une priorité nationale, une cause nationale en 2002. On le voit à travers les conquêtes de médailles, mais aussi l'accueil de grands événements, les premiers JO d'hiver en 2014 à Sotchi, les premiers Grands Prix de Formule 1 en 2014 à Sotchi, la première Coupe du Monde de football en 2018, et à chaque fois, 28 milliards, 34 milliards, enfin des dizaines de milliards d'euros pour affirmer la puissance de l'État soviétique, de l'État russe.
Ah oui, le lapsus est révélateur d'ailleurs.
C'est vrai qu'on voit bien que Poutine veut restaurer justement le prestige et le patriotisme donc dans le monde entier, et en fait l'argent ne compte pas pour y parvenir.
Donc c'est une espèce de soft power à la russe, et le sport en est la priorité.
C'est ça. Alors soft power, c'est vrai que le mot paraît un peu inadapté, parce que toutes les méthodes les moins éthiques ont été employées par les Russes. Vous avez cité en ouverture des exemples. Enfin, à ce point-là, il n'y avait eu jamais un scandale qui avait engagé autant d'acteurs complices avec toute la chaîne hiérarchique, jusqu'au ministre et jusqu'au Kremlin, jusqu'au ministre des Sports, lequel a été promu, d'ailleurs, vice-premier ministre. Donc, il n'y a pas eu du tout de gage donné à la communauté internationale comme quoi on démettait les coupables de cette chaîne de complicité. Donc, en fait, c'est une grande hypocrisie et c'est une façon de défier le monde occidental pour Poutine, qu'on retrouve dans d'autres exemples avec la Crimée ou avec l'Ukraine.
Le monde occidental qui, bien évidemment, pratique très très largement la même hypocrisie, mais avec la loi du marché, enfin avec un système évidemment très très différent.
Vous avez raison, il y a deux modes opératoires. Le marché, prenons l'exemple de Lance Armstrong, son équipe, l'US Postal, donc organisait un dopage. Il y avait un règlement intérieur qui obligeait les coureurs cyclistes à prendre des produits dopants, faute de quoi ils n'avaient pas de contrat. Donc ça, c'est le mode opératoire du marché. Et puis, il y a le mode public, un dopage d'État qu'on a retrouvé avec l'ancienne URSS ou l'ex-RDA, qu'on retrouve avec la Russie et qu'on retrouve avec la Chine. Je pense qu'un des prochains scandales va toucher la Chine parce que la Chine utilise également le sport sur la scène internationale.
Lucas Aubin, vous travaillez en ce moment donc sur la façon dont le pouvoir russe, et surtout avec Vladimir Poutine, utilise le sport à la fois pour galvaniser sa propre opinion publique et aussi pour rétablir la puissance russe dans le monde. Cela veut dire qu'il y a un système qui oblige les fédérations, les sportifs à produire du résultat.
Tout à fait. Quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 2000 pour la première fois, il a remis en place en fait un système sportif qui existait déjà sous l'Union soviétique, mais il l'a modifié en l'adaptant évidemment à l'économie de marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90, le sport russe a été complètement laissé à l'abandon.
Comme le reste d'ailleurs.
Vis-à-vis du marché justement et de la privatisation, etc. Et de nombreux stades, de nombreux gymnases ont été abandonnés, les sportifs également, les entraîneurs également. Vladimir Poutine, en arrivant au pouvoir, lui a décidé de remettre ça en marche, en route. Et il a organisé finalement un système politico-économico-sportif à l'aide de trois acteurs, en fait, que sont les oligarques, les politiques et les sportifs.
Les oligarques, ça c'est tout à fait surprenant, parce que depuis Ousmanov, qui vit à Londres, mais qui est, je crois, le président de la Fédération d'escrime.
Tout à fait.
Ses amis d'enfance, les frères...
Rothenberg,
eux, c'est le judo.
C'est le judo, mais c'est aussi le football.
Ils ont été d'ailleurs les grands profiteurs des Jeux de Sochi, mais on retrouve donc des proches de Vladimir Poutine à la tête des principales fédérations sportives. C'est tout à fait frappant.
À la tête des principales fédérations sportives, aussi à la tête des principaux clubs de football, de hockey, de tennis, de Russie également. Et ça, on a pu le voir un petit peu dans les années 90 sous Boris Yeltsin, mais ça s'est quasiment systématisé sous Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, on peut le voir par exemple avec le Zénith Saint-Pétersbourg, qui est probablement l'exemple le plus connu. Donc le club de football qui est géré par Alexei Miller et Gazprom, en fait.
Donc vous disiez les oligarques, les hommes politiques, bien sûr, et les sportifs eux-mêmes, parce qu'il faut bien que... qu'ils soient de la partie, en quelque sorte.
Tout à fait. Et les sportifs eux-mêmes qui servent, eux, pour le coup, finalement, de faire valoir, en fait, à l'international du pouvoir russe. Et grâce à leur notoriété, ils ont également un discours qui est très entendu à l'échelle nationale. Et on peut penser à Issimbaïeva, la perchiste, qui a un discours très critique à l'égard de l'AMA, par exemple, de l'Agence mondiale antidopage, et qui, de par ses multiples succès olympiques, est très écoutée en Russie, et donc tient un discours... audible, peut-être plus que certains politiques en Russie.
On se souvient de l'iconographie à l'époque soviétique, avec l'exaltation de l'athlète. Il y avait les cosmonautes et il y avait les athlètes, et notamment le perchiste ou le lanceur de poids, je ne sais plus. Jusqu'à quel point est-ce qu'on retrouve aujourd'hui la même iconographie, l'utilisation de l'image de ces sportifs qui deviennent des héros populaires, comme c'est le cas d'ailleurs dans nos pays?
Alors ça c'est intéressant parce que pour la Coupe du Monde par exemple de football 2018, on a vu justement Lev Yashin, l'ancien gardien de but soviétique qui a été ballon d'or dans les années 70, qui a été utilisé en fait pour l'affiche officielle de la Coupe du Monde 2018. Donc là on a vraiment une réactivation de ces codes-là, de ces codes soviétiques. Néanmoins, il y a quand même une adaptation à l'économie de marché et... On peut voir aussi énormément de publicité à l'égard de, enfin pour Coca-Cola, McDonald's, etc. Donc il y a une sorte de système hybride finalement aujourd'hui dans le sport russe. Donc entre un contrôle étatique et une ouverture sur le monde extérieur, économiquement et politiquement.
Sylvain Dufraisse, je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire du sport à l'université de Nantes. Est-ce que ce feuilleton du dopage depuis Sochi, donc depuis les Jeux de 2014, ont contribué en Russie même à alimenter la fierté nationale, à alimenter aussi une certaine nostalgie par rapport à l'époque soviétique?
Alors non, ils n'ont pas contribué à alimenter cette nostalgie par rapport à la période soviétique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir plutôt comment le sport avait été remobilisé et mobilisé sous Poutine, puisque ça faisait référence à l'héroïsation en fait des sportifs durant la période soviétique, ce qui avait été considéré pour beaucoup de Russes encore comme une des réussites du régime soviétique. Alors, les questions de dopage, en fait, pour moi, elles peuvent être réinterprétées comme dans le contexte de la nouvelle guerre froide, ou ce qui a été appelé par certains la nouvelle guerre froide. Et donc on a vu comment le dopage pouvait servir aussi à critiquer, par les pays occidentaux, le régime soviétique. Et c'est là pour moi ce qui est le plus important, c'est de voir en fait comment cette question du dopage, elle intervient dans un contexte, et aussi le contexte en fait de l'annexion de la Crimée aussi.
Et par rapport à ce contexte, finalement, la politique de Vladimir Poutine a été efficace.
Par rapport à ce contexte, je ne sais pas en tout cas si cette politique a été efficace. En tout cas, le sport avait été mobilisé, que ce soit dans les organisations, que ce soit en ce qui concerne aussi le développement d'une politique en fait de prestige par le sport, le fait en fait qu'on ait recruté des entraîneurs qui avaient été entraînés aux États-Unis, au Brésil, à l'étranger, et les faire revenir en fait en Russie. Le fait aussi que Vladimir Poutine a recruté des entraîneurs étrangers pour permettre en fait d'entraîner les meilleurs nationaux, les meilleurs Russes. Et aussi, pour les Jeux Olympiques de Sochi, ce qui s'était produit, c'était des naturalisations. Des Américains, en fait, qui étaient venus concourir sous le drapeau russe. Un Coréen, également, en short track, qui avait concouru sous drapeau russe.
Ce que l'on constate dans toutes les affaires de dopage, qu'il s'agisse des Russes, des Américaines, des Françaises et d'autres, c'est en fait la difficulté qu'il y a à définir la notion de dopage, qui est très évolutive selon les progrès de la chimie, en quelque sorte.
Oui, et d'ailleurs, c'est à la fois un problème de définition et un problème de volonté des organisations, et aussi un problème d'harmonisation générale, en fait, de ce que c'est que le dopage. Et aussi des tensions, en fait, entre institutions internationales autour de cette définition. Et en fait, ce qui est aussi visible, c'est que cette question du dopage, de la lutte anti-dopage, c'est un résultat de la guerre froide. Elle apparaît en fait dans les années 60, cette question à l'échelle internationale, et c'est aussi une série de scandales, en particulier la mort de Knud Jensen, le cycliste danois aux Jeux Olympiques de Rome.
Puis c'était en quelle année, ça?
Ça, c'était en 1960. Mmh. Et aussi des prises de position publiques en fait qui se sont multipliées, que ce soit celle du pape en fait Pie XII ou celle du Conseil européen sur le dopage et la préparation biologique, qui ont poussé en fait le CIO d'abord à mettre en place un sous-comité sur le dopage, puis ensuite à mettre en place à partir de 1967 une commission médicale. Et c'est au sein de cette commission médicale en fait que se sont décidées quels étaient les tests que l'on allait pouvoir mettre en place, quels étaient aussi les produits que l'on considérait comme dopants. Également, quelles étaient les procédures pour éviter des recours extérieurs, quelles étaient les procédures que les médecins de la commission médicale allaient mettre en place. Et cette lutte anti-dopage, elle commence en 1968, aux Jeux Olympiques de Grenoble, dans le cadre olympique. Et certains produits, comme les stéroïdes, ne sont pas testés, ils sont autorisés, en fait. C'est à partir uniquement de 1976, en fait, que dans le cadre olympique, les stéroïdes vont être testés, les bêta-bloquants en 1988. Et donc, on voit très bien comment, en fait, le fait de mettre un produit sur une liste ou de l'enlever est une question aussi qui est importante et pour laquelle, en fait, les pays importants cherchent à avoir des médecins ou des représentants dans cette commission médicale pour essayer de parvenir à définir ce que c'est que le dopage.
Mais encore une fois, comme vous venez de l'expliquer, les produits évoluent et donc la façon de lutter contre ces produits, Carole Gomez, évolue aussi. Il y a une espèce de course-poursuite en parallèle entre les produits de dopage et la manière de lutter contre les tests pour les déceler, en tout cas.
Exactement. Et pour rebondir sur ce que disait Sylvain Dufraisse, il y a à la fois un problème de définition, puisque le dopage qui existait dans les années 1950 n'est plus du tout le même que celui qu'il y a aujourd'hui. Il est beaucoup plus perfectionné, parfois intraçable. Mais il y a également une question de volonté. Et c'est là où on se retrouve dans une situation où les moyens mis en œuvre pour potentiellement arriver à doper une équipe ou un individu peuvent être 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieurs aux moyens dont disposent des agences de lutte contre le dopage ou même l'agence mondiale contre de lutte contre le dopage.
Donc il y a aussi cette vraie... Alors qu'est-ce que c'est que cette agence mondiale antidopage?
C'est justement une agence qui a été créée et pour faire suite à l'historique que faisait Sylvain Dufraisse, systématiquement on voit des avancées de la lutte antidopage qui suivent régulièrement les grands scandales. 1998, scandale Festina, on se rend compte de l'importance que peut représenter le dopage dans le cyclisme, mais plus largement dans le sport.
Enfin là, franchement, il y a eu une hypocrisie immense, parce qu'on voit bien que l'effort demandé aux coureurs cyclistes, avant, enfin, c'était la bière, c'était... Non, le poteau belge,
Pot belge. Alors même, c'était Albert Londres qui, quand il racontait les forçats de la route, expliquait que un certain nombre de coureurs fonctionnaient avec des petites liqueurs qui leur permettaient de mettre un petit peu de baume au cœur. Et donc il y a vraiment cette volonté. En 98, on se rend vraiment compte de la gravité de la situation. Et en 1900, donc il y a un code mondial antidopage qui est mis en place très rapidement, notamment sous l'influence aussi de la ministre des Sports à l'époque, Marie-Georges Buffet, et qui aboutit en 1999 à une agence mondiale antidopage qui est une institution assez intéressante puisqu'elle est mixte, à la fois représentante du monde du sport, mais également représentante des États. Et donc il y a cette vraie volonté d'avancer conjointement, alliant à la fois les différentes problématiques qu'on peut retrouver dans le monde du sport et les agendas politiques avec cette vraie volonté d'avancer.
Et financé par le Comité international olympique. Alors, il y a aussi un lien.
C'est ça. Il y a vraiment une corrélation importante entre le mouvement sportif et les différents États où il y a des financements qui permettent à cette institution de mettre à jour la liste des produits antidopants. Et on a eu un exemple, c'était l'année dernière de mémoire, où une grande tenniswoman russe, Maria Sharapova, s'est fait contrôler positive au meldonium, qui était une substance qui était avant le 31 décembre autorisée et qui à partir du 1er janvier ne l'était plus. Et donc elle s'est fait suspendre à cause
Et
elle a fait son retour depuis. Donc ça montre aussi, et c'est pour rebondir aussi sur ce que disait Sylvain Dufraisse, ça montre à quel point la lutte contre le dopage peut être parfois objet de lutte politique, puisque ça va permettre de plutôt mettre en avant certains produits qu'on va chercher à interdire, puisqu'on sait qu'ils vont être présents dans certains sports ou dans certaines régions du monde, et au contraire, peut-être mettre un peu moins d'engouement et moins d'argent aussi pour lutter contre certaines pratiques que l'on sait par ailleurs présentant un réel risque sanitaire pour les personnes qui les prennent.
On retourne à Limoges, vous rejoindre Jean-François Bourg. Carole nous parlait politique. On voit bien que dans la manière dont l'Agence internationale antidopage a donc interdit aux athlètes russes sous drapeau russe et en uniforme, si j'ose dire, russe, de participer aux Jeux olympiques d'été d'abord et d'hiver ensuite, on voit aussi que il y a des compromis. Puisque finalement l'Euro de foot aura lieu à Saint-Pétersbourg et que je crois qu'il y a une réunion des, il y a le sommet annuel des fédérations sportives internationales à Ekaterinbourg en 2021. Donc tout ça est quand même, comment dire, très, très nuancé, très balancé.
Vous avez raison, compromis, compromission, parce qu'en fait, c'est, il y a tellement d'enjeux économiques, diplomatiques, sportifs, que l'Agence mondiale antidopage ou le CIO n'arrive pas à tirer les enseignements. Donc c'est à chaque fois des demi-mesures, de la même façon que par rapport à ce qui a été dit avant, le bilan de l'AMA est très décevant. Avant ou après l'Agence mondiale antidopage, on a le même taux de contrôle positif, ce qui est quand même terrible, 2 à 3% de contrôle positif chaque année. Qui peut croire qu'il y a aussi peu de sportifs qui se dopent? Bien évidemment que non. Donc, dans la mesure où l'AMA n'est pas une autorité indépendante, donc c'est toujours un équilibre entre différents compromis. Donc, c'est ce que vous venez de dire, c'est l'illustration justement de ces demi-mesures, parce qu'en fait, c'est une logique de sport business. En même temps, il y a des relations internationales, il y a des contraintes géopolitiques, mais les vrais enseignements, ils sont pas là pour moi. Pour moi, une société de performance, de façon générale, et dans le sport en particulier, c'est une société qui se dope à l'Est comme à l'Ouest, dans une économie de marché comme dans une économie administrée. Donc je pense qu'il faut, au lieu de se préoccuper de la consommation de produits dopants, il faudrait aussi qu'il y ait, malheureusement les États ont abandonné, une vraie coordination à l'échelle internationale pour démanteler les réseaux mafieux. Et de ce point de vue, on s'en occupe pas du tout. Donc les mafias trouve un gisement inespéré de profits et de chiffre d'affaires avec le trafic de produits dopants, parce qu'il y a une quasi-impunité, et puis parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué que d'autres trafics. Donc je pense que le constat est très critique, et c'est pas satisfaisant la conclusion à laquelle on arrive. Évidemment, le scandale est tellement énorme, la Russie a osé aller tellement loin que les autorités internationales ne pouvaient pas faire autrement. Mais ce sont des demi-mesures qui ne régleront pas le problème de fond.
Donc la Russie, vous dites, est allée tellement loin, expliquez-nous plus en détail comment le dernier rapport donc sur les agissements en 2018-2019, qu'est-ce qu'on a compris?
Il y a eu plus, alors une fois de plus, c'est pas l'AMA qui a découvert le scandale, il y a eu des lanceurs d'alerte, ça a été dit, mais l'AMA a eu le mérite quand même de faire des rapports en 2014-2015 et en 2019 qui ont montré la chaîne de complicité. L'Institut de médecine du sport de Moscou, le laboratoire antidopage de Moscou, l'agence russe antidopage, le ministre des sports et même le Kremlin, bien évidemment, Vladimir Poutine lui-même. Et
donc, oui, qui n'est pas nommé, hein, quand même. On reste poli.
On a du mal à croire que le ministre des sports a agi sans avoir d'ordre de la part de Poutine. Le ministre des Sports de 2014-2015, il est maintenant vice-premier ministre, donc il n'a pas eu du tout de sanctions, puisqu'au contraire, il a eu une promotion. Donc quand on voit à quel point toutes les violations du Code mondial antidopage ont été mises en œuvre par Vladimir Poutine, par la Russie, donc c'est quand même impressionnant, avec la destruction de 1400 échantillons, avec de l'existence d'un laboratoire secret pour détecter les Russes qui éventuellement pourraient être contrôlés positifs, avec l'interdiction par Poutine de la présence de contrôleurs indépendants étrangers pour des contrôles inopinés, donc avec de multiples collusions, avec le refus de transmission de prélèvements sanguins ou urinaires. Enfin, donc, on n'a jamais vu à ce point-là une organisation de la fraude par un État. Donc, c'est quand même très, très impressionnant.
Et donc, ça veut dire que, quelles qu'aient été les leçons de Sotchi 2014, le pouvoir russe estime qu'il est plus important de continuer à promouvoir le sport de haut niveau plutôt que de prendre en compte les scandales éventuels comme ceux qui viennent de lui éclater au nez.
Vous avez raison. Grâce au sport, la Russie est la troisième puissance au monde, alors que d'un point de vue économique ou démographique, elle est très loin d'être dans le top 10. Donc pour elle, c'est une manière de promouvoir le culte de l'excellence sur la scène internationale, alors qu'elle n'a plus les moyens de son passé. Donc c'est un choix entre des inconvénients, et Poutine préfère ignorer toutes ces critiques et ce bannissement entre guillemets du sport mondial, mais en même temps il flatte la fierté russe, et puis il affirme sa puissance à l'échelle internationale.
Amdab Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, notre partenaire, et vous vous êtes intéressée à l'histoire de ces lanceurs d'alerte qui, dans les années 2010, ont les premiers d'ailleurs, avec une chaîne de télévision allemande, ARD, mis le feu aux poudres, si j'ose dire.
Oui, les premiers, c'était notamment les époux Stepanov, Yulia et Vitali, dont nous parle la BBC. Yulia est une athlète spécialiste du 800 mètres, encouragée au dopage par son entraîneur. Et Vitali est un employé un peu idéaliste de l'agence antidopage russe, RUSADA. Ils se rencontrent en 2009 et ce couple un peu improbable se retrouve aux premières loges du système de dopage russe. Alors, ils décident assez vite de révéler l'ampleur de la fraude, notamment par le biais de courriers à l'agence mondiale antidopage qui reste la plupart du temps sans réponse, ce qui pousse Yulia à enregistrer secrètement les officiels, les entraîneurs, les médecins qui organisent son dopage et à transmettre ce matériel, vous l'avez dit, à un documentariste allemand qui révèle le tout dans un film diffusé en novembre 2014. Le couple doit alors fuir la Russie avec leur fils de 8 mois. Ils vivent aujourd'hui aux États-Unis dans un lieu tenu secret. Leurs propos sont ensuite corroborés plus tard par un homme du Sérail, Grigory Rodchenkov, ancien directeur du laboratoire antidopage russe. Poussé à la démission par les autorités russes qui tentent de le décrédibiliser, il s'exile aux États-Unis et révèle en 2016 au New York Times le système de manipulation des échantillons d'urine des tests antidopage lors des JO de Sochi en 2014, où là on a eu vraiment quelque chose fait à très grande échelle. À Sochi en 2014, les athlètes russes avaient remporté 33 médailles, plaçant leur nation à la première place du tableau des médailles. Un système de dopage d'État que Rodchenkov, qui a passé près de 10 ans à la tête du laboratoire de l'agence antidopage russe à partir de 2006, a contribué à mettre en place. Rodchenkov était lui-même un ancien athlète qui avait reconnu s'être dopé pendant sa vie de sportif. Pour le New York Times, les détails de ce scandale sportif offrent un regard unique sur la machine intérieure russe, une étude de cas pour comprendre la soif de réussite russe et ses méthodes éhontées.
Ce qui est intéressant, c'est que certains athlètes russes aujourd'hui, donc 5 ans après, n'hésitent pas eux-mêmes à dénoncer l'attitude de leur propre fédération.
C'est le cas notamment de la championne du monde russe Maria Lasitskene, qui dénonce l'attitude des autorités dans une tribune au Moscow Times. « Je suis une championne du monde russe et j'exige des réponses », écrit-elle dans l'article publié dans ce média anglophone. Après la mise au banc de la Russie pour 4 ans, Maria Lasitskene est âgée de 26 ans. Elle est une championne de saut en hauteur et elle tente de mener sa carrière en dépit des sanctions qui pèsent contre le sport russe. En 2016, elle ne parvient pas à concourir aux Jeux Olympiques de Rio et à partir de 2017, elle s'engage néanmoins à participer à des compétitions internationales sous la bannière neutre. Elle estime dans cet article que les autorités russes n'ont pas fait assez pour poursuivre les coupables du dopage d'État. Elle écrit ainsi « Qui a été puni à part les athlètes et les quelques officiels suspendus par la Fédération internationale d'athlétisme ? Et si les personnes responsables du scandale ont vraiment été punies, comment se fait-il que pratiquement rien n'a changé ? Comment se fait-il que nos athlètes continuent à être contrôlés positifs, que les entraîneurs impliqués continuent à travailler et que les officiels russes continuent à falsifier des documents ?»
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Lucas Aubin, expliquez-nous comment les athlètes russes vont pouvoir concourir dans un certain nombre de compétitions internationales à partir de 2020, c'est-à-dire dans 15 jours, à condition qu'il n'y ait pas de drapeau russe, qu'il n'y ait pas d'hymne russe et qu'il n'y ait pas l'écusson russe sur leurs équipements.
Alors tout à fait, à ceci près que ça va dépendre en fait de la taille en fait de l'événement sportif. Par exemple, pour l'Euro 2020, ils vont pouvoir concourir avec le drapeau russe, avec l'hymne russe, etc.
Ah oui, parce que
c'est
là...
une compétition continentale. Par contre, pour les grandes compétitions internationales, là effectivement, on aura une équipe russe comme au JO de Pyeongchang, à savoir sous bannière donc olympique ou neutre selon l'événement.
Et donc ça concerne les Jeux d'été à Tokyo donc l'été prochain et les Jeux d'hiver à Pékin en 2022.
Tout à fait.
Donc là, il n'y aura pas d'équipe nationale russe.
Alors, officiellement, non, mais officieusement, oui. C'est-à-dire que les athlètes propres, qui pourront le prouver auprès du CIO, vont se déplacer et vont concourir lors de ces compétitions-là. Et on peut s'attendre, du coup, à des compétitions extrêmement politiques, parce que, justement, ces athlètes vont utiliser l'événement pour montrer leur patriotisme et leur fierté à travers d'autres biais, en fait. Et on l'a vu au JO de Pyeongchang, justement. Il y a eu une campagne de communication qui a été menée à l'époque par une entreprise de communication russe, qui a utilisé les initiales OAR pour Olympic Athlete Russian, quelque chose comme ça, en montrant une onomatopée d'un ours russe hurlant, rugissant, etc. Donc il va y avoir utilisé
signe de fierté et de victoire.
Donc on va s'attendre effectivement, on peut s'attendre pendant ces prochaines 4 prochaines années à des JO très politiques, encore plus que d'habitude.
Et ces athlètes seront néanmoins soutenus alors en coulisses par leur propre fédération ou...
Tout à fait, ils seront soutenus, mais tout de même isolés lors des compétitions, évidemment. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu quand même une évolution dans le sport power russe depuis ces dernières années. C'est-à-dire que entre les JO de Sochi 2014 et la Coupe du Monde de football 2018, on est passé d'une stratégie qui était offensive. Donc en 2014, il s'agissait de gagner, de remporter l'événement, et c'était inscrit. Il y a eu un oukaz qui avait été signé par le président russe en 2009 qui disait qu'il fallait remporter l'événement. Tandis qu'en 2018, c'était davantage un événement qui était là pour montrer l'ouverture de la Russie, son accueil, son hospitalité, etc. Donc toutes les leçons n'ont pas été tenues, n'ont pas été tirées par le pouvoir russe pour l'instant, mais il y a une évolution tout de même dans son sport power.
Sylvain Dufresne, que sait-on des réactions au sein même de l'opinion publique russe, pour autant qu'on puisse la mesurer sur les réseaux sociaux ou en tout cas dans les grandes villes? Est-ce que la politique du Kremlin est efficace pour continuer à galvaniser ce patriotisme sportif?
Oui, en effet, en fait, ce qui est visible sur les réseaux sociaux ou quand on parle en fait avec des Russes des grandes villes, c'est le fait de vivre ça comme une injustice, en fait. Le fait que des athlètes paralympiques, par exemple, pour qui c'est un moyen en fait d'avoir une place dans la société russe, ne puissent pas aller dans les concours olympiques. Et donc, pour une grande partie des Russes, ces décisions et depuis 2014 sont vécues en fait comme des formes d'attaque et d'injustice. Par contre, ce qui est sensible en fait dans les derniers mois, c'est de voir au sein des fédérations des discours qui sont parfois plus modérés, qui sont parfois plus critiques. Par exemple, le président de la fédération de boxe, Oumar Kremlev, a affirmé que les responsables du sport russe sont à blâmer. Alors que Elena Intsimbayeva, dont on a déjà parlé dans l'émission, membre de la commission des athlètes du CIO, ancienne championne de saut à la perche, indique que les décisions récentes là ne sont pas une surprise et que ce sont des sanctions qui apparaissent cruelles, injustes et meurtrières pour le sport russe. Donc on voit en fait une variété des réactions au sein des dirigeants du sport russe, mais plutôt en fait une perception d'une injustice plutôt dans le grand public russe.
Néanmoins, on peut imaginer que au niveau des régions, les pouvoirs locaux ont toujours intérêt à satisfaire Moscou et à stimuler les talents à leur échelle, quels que soient les moyens employés.
Que ce soit en effet les pouvoirs locaux, mais que ce soit aussi les entraîneurs. Et ce qui me semble aussi intéressant à voir, c'est que ces 4 dopages, quand on analyse un petit peu, ce n'est pas dans l'ensemble des sports. Il y a des sports qui sont davantage marqués par ces cas de dopage russe, en particulier l'athlétisme. Et cela peut s'expliquer en particulier par le fait qu'il y ait des groupes d'entraînement et que ce ne soit pas une équipe en fait qui soit centralisée dans un lieu très précis et que ces équipes d'athlétisme russes, en fait, elles sont disséminées dans différents groupes d'entraînement, ce qui peut favoriser le recours à des pratiques dopantes, mais choisies par les entraîneurs ou en collaboration aussi avec les médecins de ces équipes-là. Donc c'est ça aussi qui est intéressant à voir, c'est combien aussi des organisations internes aux fédérations peuvent favoriser ou non ce recours.
Jean-François Bourg, jusqu'à quel point est-ce que la façon dont les produits dopants évoluent, donc les critères de dopage évoluent également, les tests pour les déceler évoluent aussi, jusqu'à quel point est-ce que la Russie est dans la course au même titre que les pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, à supposer que ces tests soient appliqués aux États-Unis avec rigueur, ce qui n'est sûrement pas toujours le cas non plus.
C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la sophistication des méthodes russes, parce qu'elles paraissent un peu, par certains côtés, un peu artisanales, même s'il y a une organisation par les services de l'État. Mais il me semble que du côté occidental, donc avec des moyens financiers importants, il y a des moyens d'échapper au contrôle, parce que c'est une course-poursuite entre le gendarme et le tricheur. Le tricheur a toujours une longueur d'avance. À chaque fois qu'il y a une nouveauté dans la lutte antidopage, mais les médecins dopeurs donc trouvent une innovation. Et je suis pas certain que la Russie, de ce point de vue, soit dans le peloton de tête, ne dispose pas de tous les atouts qu'ont, par exemple, les États-Unis. Donc ça, c'est un handicap. Ce qui peut expliquer l'ampleur du scandale, parce que je suis encore abasourdi par toutes les violations du code mondial antidopage par la Russie, alors que les États-Unis, par exemple, dopent, mais d'une autre façon. C'est pas le pouvoir politique, c'est justement les sponsors privés ou d'autres chaînes de complicité. Mais c'est quand même beaucoup plus efficace pour échapper à la lutte antidopage que la Russie, qui là s'est mise dans une situation inextricable, quoi. Donc les prochaines années, il va y avoir un feuilleton, des multiples épisodes qui vont un peu contribuer à marginaliser la Russie sur les podiums olympiques.
Ça veut dire que la Russie, d'une certaine manière, paie aussi le prix d'un certain retard technologique par rapport à d'autres centres de production de produits.
Oui, je le pense. Hein. Une fois de plus, la Russie est un grand pays par certaines dimensions, mais n'est plus quand même dans le top 10 des grands pays en termes d'innovation et de technologie. Et donc, je pense que c'est le prix à payer, c'est le revers de la médaille. Le fait que ces scandales l'éclaboussent montre qu'elle n'a pas su adapter sa technologie justement au progrès de la lutte antidopage.
Carole Gomez, la façon dont on a vu à Paris comment Vladimir Poutine a réagi, on a vu à Moscou le Premier ministre dire « oui, c'est encore une fois l'hystérie anti-russe ». Les grandes affaires de scandales les plus récentes, on parle là des Russes, mais il y en a eu d'énormes aussi, et notamment aux États-Unis avec cet entraîneur
de gymnastique.
Alors là, c'était à la fois scandale sexuel et dopage.
C'est ça. Il y avait une, on va dire, une double culpabilité à cet égard, et qui montre aussi à quel point c'est pas quelque chose qui nous concerne. Il serait parfaitement hypocrite de notre part de ne uniquement se concentrer que sur la Russie, puisque c'est quelque chose qui doit être pensé de façon internationale.
Oui, on peut d'ailleurs inclure la France.
Exact. Et alors, avec effectivement des scandales qui sortent de façon plus ou moins importante en Europe, en Afrique, en Asie. Et Monsieur Bourg notait à juste titre le potentiel que la Chine peut aussi avoir dans cette affaire-là. Effectivement, les États-Unis ont été très durement frappés, et l'exemple de Lance Armstrong évidemment revient en tête avec l'US Postal, mais il ne faut pas non plus oublier que dans le domaine de l'athlétisme, il y avait eu de très forts scandales au début des années 2000 avec l'affaire Balco, qui concernait un laboratoire qui entraînait parmi les meilleurs athlètes américains, avec des multimédaillés olympiques, que ce soit masculin ou féminin, sur absolument toutes les disciplines.
Un sponsor, donc.
En fait, c'était un laboratoire, c'était un centre d'entraînement avec toute un laboratoire à la disposition des athlètes qui les poussait à prendre un certain nombre de produits stupéfiants. Marion Jones, qui était grande athlète sacrée aux Jeux de 96 ou 2000. De mémoire, avait été reconnu dopé et s'était vu retirer ses médailles de la même façon qu'un certain nombre d'autres de grands noms du sport américain. Mais là, dans le cas russe, ce qui, à mon sens, est vraiment important à avoir en tête, c'est que c'est pas quelque chose qui arrive soudainement. Ce scandale russe, c'est un peu un scandale à répétition, avec de nombreux épisodes. Ça a été dit qu'ils ont débuté avec le documentaire de 2014, mais dont l'Agence mondiale antidopage, mais le CIO, se saisit à peu près tous les 6 mois. Il y a eu systématiquement des sanctions qui sont intervenues pour les Jeux de Rio en 2016, pour les Jeux de Pyeongchang en 2018, et encore aujourd'hui, en 2019, et qui va les porter, cette fois, sur 4 ans, les 4 ans à venir. Donc il y a vraiment cette logique de répétition, de se faire, pardonnez-moi l'expression, mais avoir par la patrouille, et puis pour autant retomber dans ses travers en ne montrant pas d'amélioration. Et c'est exactement ce qui est reproché dans ce cas-là, puisque début janvier, il semblait y avoir une amélioration des relations entre la Russie et l'Agence mondiale antidopage. Et en fait, on se rend compte que sur les données qui ont été fournies, près de la moitié étaient trafiquées. Et donc, s'il peut s'agir d'une erreur pour quelques données ou quelques profils défaillants, quand il s'agit de 145 sur 298, on rentre quand même dans une ampleur différente. Et il y a aussi un élément qui me semble important à rajouter. Effectivement, il y a eu cette accélération à partir de 2010, mais il faut aussi le lier à un événement sportif qui est les très mauvaises performances des athlètes russes lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Vancouver en 2010, Vladimir Poutine ayant en tête qu'il devait accueillir sur son sol les Jeux Olympiques en 2014. Et donc le fait d'apparaître 11e nation au tableau des médailles en 2010 avec simplement 15 médailles remportées alors que le premier en avait 30, était à ses yeux, mais également aux yeux de l'ensemble du sport russe, parfaitement impossible. Et donc c'est pour ça qu'on a pu voir une accélération et une vraie mise en place de ce réseau de dopage à partir de 2011, et où 2014 était en fait le cœur, l'aboutissement de cette campagne-là. Mais là encore, et il y a de plus en plus d'études qui le montrent, les pourcentages de cas dans le domaine du dopage ne concernent pas uniquement la Russie, chose qu'avait noté d'ailleurs l'Agence mondiale antidopage de mémoire en 2016, qui avait publié un rapport très largement à 90% sur la Russie, mais qui avait noté qu'il y avait aussi un certain nombre de pays qui présentaient une certaine faiblesse, on va dire, diplomatiquement, dans la lutte antidopage. Et donc essayer de tirer la sonnette d'alarme sur cette situation où la Russie est au cœur de ces éléments-là, mais plus largement qu'une attention internationale était nécessaire. Et les États-Unis en font évidemment partie.
Lucas Aubin, pour en revenir au système Poutine, avec donc ce pilier sportif qui reste tout à fait important dans la façon dont le maître du Kremlin conçoit la Russie d'aujourd'hui, jusqu'à quel point est-ce que ce système évolue aussi en fonction des besoins de financement qui sont considérables, avec par rapport aux oligarques qui, pendant, disons, les 15 premières années du règne de Poutine, ne mettaient pas beaucoup de prudence dans leur manière d'agir, là, ça a changé. Parce que même Vladimir Poutine s'est rendu compte que le niveau de corruption à Sotchi en particulier devenait néfaste pour l'image russe, au-delà même des affaires de dopage.
Il y a eu une prise de conscience du fait que justement la Russie ne faisait pas du soft power en fait. C'était quelque chose d'un peu différent, c'était quelque chose d'une certaine idée de la domination du sport mondial, mais c'était pas l'idée propre, l'idée même du soft power, à savoir l'attraction. Donc il y a eu, on va dire, un changement, un basculement ces dernières années dans la manière d'aborder ce sport power, justement. Et ce qu'on peut voir aussi, et ce qui m'intéresse, moi, c'est justement que beaucoup de gens parlent de dopage d'État aujourd'hui, alors que rien, directement, comme vous le disiez tout à l'heure, ne rattache directement ce dopage à Vladimir Poutine. Et en fait, on voit finalement que les représentations occidentales en la matière sont aussi très brutales, finalement. C'est pour ça que...
Caricatural,
peut-être, parce que avant même la fin, finalement, des enquêtes, tout de suite, la presse occidentale, française, américaine, etc., avait titré sur ce fameux dopage d'État. Et ça a été très mal vécu, je crois, en Russie, et c'est pour ça qu'on peut voir beaucoup d'athlètes ou de personnalités russes s'insurger contre ces discours-là.
Oui, d'autant qu'on peut penser que leur discours n'est pas toujours innocent ou spontané. On peut aussi imaginer qu'ils soient tout à fait dans les mœurs, que certains patrons de fédération disent « Ah oui, c'est pas bien, on devrait être plus vigilant », et que d'autres, au contraire, disent l'inverse. Oui. Je veux dire, ça fait aussi partie de la gestion politique.
Il y a une sorte de bipolarité en Russie, finalement. Récemment, c'était Yuri Ganus, justement, le président de RUSADA, donc l'agence antidopage russe, qui disait, au lendemain des sanctions, des récentes sanctions de l'AMA, « Nous avons été trahis, c'est une sorte de complot », sans préciser qui avait trahi et quel type de complot, en fait.
Donc, non, mais ça, c'est très habile. Ça, donc, ça peut être interprété de tous les côtés possibles.
Plein de façons différentes. Sachant que Yuri Ganous est plutôt libéral au sens russe du terme, c'est-à-dire pro-démocratie, qui défend la nécessité de s'adapter aux institutions internationales, etc. On peut imaginer qu'en fait, lui critique plutôt ce qui se passe au sein même de la Russie, en fait. C'est comme ça qu'on l'entend. Enfin, moi, je l'ai entendu comme ça, en tout cas.
Et qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux?
Sur les réseaux sociaux, beaucoup de hashtags, comme pour les JO de Sochi d'ailleurs, qui dénoncent des décisions politiques, qui dénoncent le fait qu'il y ait un double discours, en fait, que les États-Unis ne sont pas traités de la même façon que la Russie, que l'AMA est dirigée par des Américains ou en tout du moins des Occidentaux, etc. Il y a une vague de complotisme sur Twitter et Facebook, en tout cas qui est très visible.
Sylvain Dufraisse, est-ce que les tout derniers scandales, et Carole Gomez nous expliquait en fait la grossièreté des procédés utilisés en 2018-2019, est-ce que on peut penser que du coup il y aura un peu plus sinon d'éthique ou pour le moins de sophistication dans la manière dont le système russe va réagir?
Alors ça, je ne sais pas en fait comment répondre à cette question. En effet, ce qui est peut-être visible, c'est que les dirigeants russes avaient investi dans les fédérations internationales des postes de direction, mais avaient moins investi des espaces en fait qui participaient à la réglementation, à produire en fait l'ordre fédéral sportif. Et donc peut-être aussi que ça montre une forme d'échec d'investissement du sport international, mais qui me semble être corrigé en travaillant davantage aussi sur le financement des instituts de culture physique, par exemple, qui avaient été durant la période soviétique des fers de lance en fait de la performance sportive, des lieux qui, comme l'INSEP en France, rassemble à la fois les meilleurs sportifs et les meilleures équipes de recherche. Et donc ces instituts de culture physique, durant les années 90, avaient été un petit peu délaissés, mis de côté. Et durant les dernières années, on voit en fait de nouveau des espaces en fait assez dynamiques dans lesquels se produit de la recherche. Les Russes aussi avaient souffert du départ de nombreux chercheurs, physiologues, biomécaniciens à l'étranger, puisque les revenus en URSS pour les chercheurs en fait sont assez modiques. Et donc on peut voir aussi durant les dernières années un renouveau du financement en fait de la recherche sportive.
Carole Gomez, vous êtes juriste, je crois, au départ. Comment est-ce que dans ce système, est-ce que c'est l'État qui prend en charge la défense des sportifs russes dont les dossiers ont disparu, donc ceux-là, ils seront peut-être plus difficiles à pointer du doigt. Sinon, ces sportifs-là, qui sont désignés par les autorités internationales, qui va apporter la charge de la preuve? Est-ce que c'est l'autorité internationale en question? Est-ce que c'est la fédération russe? Ou est-ce que c'est l'athlète lui-même?
Alors, pour le coup, c'est là qu'il est vraiment intéressant d'avoir une lecture littérale du communiqué de l'Agence mondiale antidopage pour savoir exactement quelles sont les sanctions en tant que telles. Et effectivement, cette porte est ouverte. S'il y a une des sanctions dures ou qu'il semble dure à l'égard de la Russie, avec l'interdiction d'accueillir des grands événements sportifs sur son sol et de candidater à d'autres événements sportifs.
Pendant quatre ans.
Et même l'impossibilité de candidater aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032, donc ça va bien plus loin que 4 ans. En revanche, concernant les athlètes, il y a une petite porte ouverte, même si à mon sens elle n'est pas si ouverte que ça, puisque les athlètes peuvent participer sous bannière neutre, à la condition de ne pas avoir été mêlés de près ou de loin à ces scandales de dopage et de pouvoir apporter la preuve qu'ils sont parfaitement proches et propres, pardon. Sur ce cas de figure, on pourrait imaginer que c'est quelque chose qui est au final assez simple. Or, c'est quand même extrêmement dur pour les athlètes d'avoir cette charge de la preuve, c'est-à-dire qu'ils doivent eux-mêmes arriver à le démontrer qu'ils n'ont à aucun moment participé de près ou de loin à cette campagne de dopage. Ce qui, en termes juridiques, est extrêmement lourd, puisqu'il n'y a pas de présomption d'innocence, mais il y a plutôt une présomption de culpabilité, et donc charge à eux d'arriver à apporter les preuves, par le biais de leur fédération nationale, de leur innocence.
Et alors, donc, quel genre de preuves ? Des papiers disant, moi...
Il peut y avoir plusieurs techniques. Il y a notamment, dans le cadre des campagnes antidopage, il y a très régulièrement des prises de sang, la récupération d'urine, de cheveux, qui permettent de montrer que les échantillons sont parfaitement sains. Et là, si dans le cas où certains athlètes pouvaient être pointés du doigt, il y a systématiquement des échantillons A, des échantillons B, qui sont collectés, conservés, justement s'il y a un doute, un souci sur un échantillon. Et donc dans ces cas-là, charge à eux de voir si le doute qui subsiste sur leur culpabilité ou sur leur innocence peut être démontré dans un sens ou dans l'autre grâce à la publication, à la recherche de ces échantillons sains. Mais là encore, reste à savoir s'ils les ont conservés. Ça, en termes logistiques, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Et là encore, on ne sait pas si l'agence de lutte contre le dopage russe aura un historique quelque part propre de tous ces éléments-là. Donc là encore, on est un peu dans l'expectative de savoir comment est-ce que les choses vont pouvoir se décanter, dans quel sens. Est-ce que c'était une porte très largement ouverte de la part de l'Agence mondiale antidopage en expliquant que cette charge de la preuve reposait sur les athlètes, ou est-ce qu'au contraire, ça va être quelque chose qui va être analysé de façon très stricte et auquel cas, potentiellement, voir des grands événements sportifs sans la présence d'athlètes russes, qu'ils soient sous bannière neutre ou non.
Jean-François Bourg, en toile de fond de toute cette discussion, il y a évidemment le sport business, c'est l'expression que vous avez employée d'entrée de jeu, un sport business qui a pris une ampleur absolument phénoménale et que personne ne remet en cause, tellement c'est une industrie qui sert toute une stratification économique, commerciale, sportive, politique.
Vous avez raison. C'est la justification de la lutte antidopage telle qu'elle est conçue actuellement et qui est totalement inefficace ou presque inefficace. C'est qu'en fait, il faut montrer qu'on met tout en œuvre et qu'on fait tomber de temps en temps des sportifs pour crédibiliser la valeur marchande du spectacle sportif. Mais sur le fond, une fois de plus, on règle absolument pas le problème. Donc il y a tellement d'enjeux financiers. Comment voulez-vous que les grandes fédérations, les grandes ligues professionnelles, y compris aux États-Unis, dans les sports majeurs, on fait semblant, parce que le gisement de profit est tel qu'on ne peut pas remettre en question sans arrêt la logique plus vite, plus haut, plus fort, parce que le spectacle à la télévision est magnifique, les stades sont pleins, donc il y a tellement d'enjeux financiers qu'il faut montrer à l'opinion publique que le spectacle fait l'objet d'une compétition loyale entre des gens qui respectent un certain code, et en fait c'est un artifice. Donc c'est ça qui est un peu dommage, mais l'enseignement majeur du dopage en Russie, comme des affaires Balco, Festina, Armstrong, Puerto, etc., montre bien que le dopage n'est pas une somme de dérives individuelles, mais c'est une pratique structurelle, sociétale, organisée et collective. Donc il faudrait aussi que la communauté internationale dans le domaine du sport, le CIO, s'interroge aussi sur sa devise olympique, plus haut, plus vite, plus haut, plus fort, qui est une injonction au dépassement de soi, à la transgression et donc à tous les excès. Et de ce point de vue, la pratique en Russie a des vertus pédagogiques, parce que moi je défends depuis 20 ans cette thèse que c'est une approche institutionnaliste du dopage, à savoir qu'il y a une main visible des institutions publiques et sportives, et c'est pas des comportements déviants de tel ou tel sportif. Pour moi, c'est l'enseignement majeur de l'actualité russe de 2019.
Qu'est-ce que l'on sait des pratiques que les oligarques russes, quand ils se sont mis à acheter à tour de bras, notamment des clubs de foot en Europe, en Angleterre surtout, jusqu'à quel point est-ce que ces oligarques, Lucas Aubin, ont changé de comportement? Est-ce qu'ils se sont en quelque sorte ajustés aux mœurs locales, ou est-ce qu'il y a eu des chocs de culture à la marge?
Alors, ces rachats de grands clubs, donc à l'étranger ou en Russie d'ailleurs, se sont surtout faits dans les années 2000, en réalité, et on a vu énormément d'argent injecté dans ces clubs-là à ce moment-là.
Donc Abramovich, Ousmanov,
même le président de l'AS Monaco, dont j'ai oublié le nom.
Rebolovlev,
pardon, voilà.
Qui vient de perdre son procès contre Yves Bouvier, le marchand de tableaux qui... facturait à l'excès, selon Ribolovlev,
exactement.
Les œuvres d'art qu'il lui vendait. Oui.
Exactement. Et du coup, on peut voir deux catégories d'oligarques, finalement. Il y a ceux qui sont partis à l'étranger pour investir énormément et qui, eux, se sont également, du même coup, éloignés, finalement, du pouvoir russe. Et parfois, même pour éviter certaines affaires qui existaient en Russie, même. Et Ribolovlev est l'exemple. Dans les années 90, il a été condamné à 1 an de prison pour des problèmes de l'époque. Voilà. Ceux qui sont restés en Russie et qui ont investi en Russie dans les grands clubs de foot, par exemple, le Rubin Kazan, par exemple, eux utilisent le gaz, le pétrole et tout cet argent-là pour pouvoir améliorer l'image de la Russie et de leur ville, du coup, à l'international, en participant à des compétitions type Champions League, etc. Sauf qu'à partir du début des années 2010, ils se sont rendus compte que cette stratégie-là d'injection de grandes sommes d'argent ne fonctionnait pas sur le long terme, en réalité. C'était bien pour acheter un grand joueur à un instant T, un deuxième grand joueur à un instant X, etc. Mais c'était pas pérenne, en fait. Et le problème, là, en l'occurrence, c'est qu'il n'y avait pas de culture footballistique, par exemple, en Russie. Et du coup, il y a un ajustement, pour répondre à votre question, justement, de la part des oligarques, qui aujourd'hui cherchent davantage à faire venir des sponsors étrangers, pour justement rentrer finalement définitivement dans l'économie de marché. Donc en observant l'économie du sport russe, on peut essayer d'imaginer ce que va devenir finalement la gouvernance du sport russe dans quelques années.
Carole Gomez, le mot de la fin, rapide. On a vu que le Comité international olympique lui-même a été secoué assez vigoureusement par des scandales de corruption, employons le mot. Jusqu'à quel point est-ce que cette espèce de moralisation à laquelle faisait allusion Jean-François Bourg, contrainte en quelque sorte par le sport spectacle, jusqu'à quel point, selon vous, cela peut quand même aller dans un sens un peu plus éthique?
À mon sens, et c'est l'idée aussi du CIO, c'est de ne pas jouer trop longtemps avec le feu sur ce sujet-là, puisqu'elle sait que si on remet en cause l'intégrité de ces sportifs et donc la glorieuse incertitude du sport, le sens même de regarder le sport n'a plus tombe de facto. Et donc il y a cette prise de conscience du CIO de se saisir de ce sujet-là. Même si, c'est un peu comme nettoyer les écuries de GIAS, il faut arriver à se lancer sur le sujet avec des soutiens, avec des moyens temporels, humains, financiers. Et donc le meilleur est à venir.
Le meilleur est à venir. Et en tout cas, Noël dans quelques jours. Donc merci à vous, Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS. Vous avez écrit « Le rugby à la conquête du monde, histoire et géopolitique de l'Ovalie » chez Armand Collin cette année. Merci à Lucas Aubin et bon courage pour terminer votre thèse sur la stratégie du sport sous Vladimir Poutine. Merci à vous, Jean-François Bourg. Vous avez écrit un livre sur le dopage. Il s'intitule « Le dopage » aux éditions La Découverte en 2019. Sylvain Dufraisse, auteur de « Les héros du sport », une histoire des champions soviétiques de 1930 à 1980 aux éditions Champ-Vallon 2019. Merci bien sûr à Hamdam Mostafavi de Courrier International. Luc-Jean Reynaud était à la réalisation ce matin, à la technique Philippe Mercher, Hugo Boursier a préparé cette émission que vous pourrez retrouver bien évidemment ainsi qu'une bibliographie complète sur le site de France Culture. Vous pouvez podcaster Affaires étrangères pendant toutes les vacances de Noël. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette et bien sûr, joyeux Noël.